Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Max Gallo, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 31 janvier 2008. Max Gallo qui vient de publier chez Fayard un livre intitulé « Le roman des rois » où, à travers l'histoire des Villeneuve de Thorin, qu'il raconte avec le souffle qui le caractérise, ce que fut le destin ô combien contrasté de trois grands rois capétiens qui ont marqué notre histoire de leur empreinte, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel. Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de faire commencer cette grande évocation des Capétiens avec Philippe Auguste, en laissant de côté les sept rois qui l'ont précédé de 1180 à 1223. Je rappelle pour mémoire, une mémoire qu'on a d'ailleurs perdue pour la plupart d'entre eux, Hugues Capet, Robert II, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI, Louis VII. Aucun d'entre eux n'a apporté quelque chose d'essentiel à l'histoire ?
Si, il faudrait vous rappeler tout ce qu'ils ont fait, notamment l'augmentation du domaine royal. Ils ont été des introducteurs. On peut dire que la lignée capétienne est une lignée de bâtisseurs. Ce sont eux qui ont bâti le royaume de France. Alors, il fallait choisir dans cette lignée les personnages qui m'ont paru les plus extraordinaires, les plus importants, qui sont, vous l'avez rappelé, Philippe Auguste de 1180 à 1223, puis un petit intermède, puis il y a Louis IX, dit Saint-Louis, de 1226 à 1270, et enfin il y a Philippe le Bel, 1285-1314. Ce qui est intéressant dans ces trois personnages, et c'était une des raisons pour lesquelles je les ai choisis, c'est qu'ils sont, je crois que c'est un cas unique de l'histoire de la dynastie qui règne sur la France, que ce soit les Valois ou les Capétiens, les Valois plus tard, ou les Orléans, c'est que les liens familiaux sont encore très forts, puisque Saint-Louis est le petit-fils de Philippe Auguste et connaît donc son grand-père, qui peut lui parler, ce qui est tout à fait extraordinaire à l'époque, puisque la mort était évidemment une faucheuse très active, et Philippe le Bel est le petit-fils de Saint-Louis. Saint-Louis se trouve donc comme une sorte de clé de voûte, étant le petit-fils de Philippe Auguste, et étant le grand-père de Philippe le Bel. Je trouve ça très, très intéressant, parce que ça montre que là, nous sommes dans un espace de temps assez rétréci, puisque les vies se chevauchent, et nous sommes aussi dans une période qui est tout à fait extraordinaire, puisque je dirais la Sainte-Chapelle, je dirais l'abbaye du Mont-Saint-Michel, je dirais Notre-Dame, c'est le temps des cathédrales, c'est le temps aussi des croisades, mais c'est le temps de, quand vous circulez dans Paris, dans le centre de Paris, dans ce 5e et ce 6e arrondissement, les traces capétiennes sont présentes presque à chaque pas.
Alors, le premier de ces grands rois, donc Philippe Auguste, on ne peut pas dire que ce fut un roi très avenant. Enfin, physiquement, il est quand même assez ingrat.
Écoutez, je ne peux pas vous répondre avec précision. Vous savez, j'ai opté, je devance peut-être vos questions, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'on comprenne quel a été mon projet dans ce livre. Car on a un problème avec cette période, et votre question soulève ce problème, c'est que nous n'avons pas d'image. Les tableaux sont convenus, on hésite même sur l'identification du souverain, donc on n'a pas d'image. Les témoignages, même les mémoriaux, les chroniqueurs sont emportés par l'éloge du souverain, une description assez convenue. Donc, il faut à la fois, pour l'auteur que je suis, se placer dans l'époque, en même temps avoir une distance par rapport à ses souverains. Et moi, j'ai choisi de mettre en parallèle à cette dynastie capétienne une autre dynastie modeste, celle-là, mais que j'ai beaucoup utilisée dans mes romans, puisque je me suis créé comme ça un creuset d'une famille, les Villeneuve de Thorin, qui habitent la Provence, que je connais bien, il y a encore les traces de leur château. Je reçois encore reçu récemment une lettre des lecteurs qui dit on a trouvé le lieu du château des Thorincs, et qui sont des chroniqueurs, qui de père en fils ou en petit-fils vont être une famille qui va se vouer au service de la couronne de France et en même temps être chroniqueur. Donc, votre question elle est légitime, et moi je n'y réponds qu'à travers le discours d'un chroniqueur, parce qu'on n'a pas de réponse précise. Vous savez par exemple, je saute quelques siècles, mais vous savez par exemple qu'il y a un débat pour savoir si Louis XIV était petit ou grand, entre les historiens. Jusqu'à il y a quelques années, on imaginait Louis XIV tout petit, on avait des arguments, et depuis quelque temps, les historiens ont pensé qu'il dépassait de la tête l'ensemble des courtisans qui devaient faire au moins 1m85, ce qui était très grand pour l'époque. Et on a, par exemple, Joinville, qui est le chroniqueur de Saint-Louis, qui dit, qui fait un portrait de Saint-Louis, mais est-ce un portrait littéraire ou simplement la réalité, en disant c'est le plus beau des chevaliers, il dépassait des épaules l'ensemble de son armée. Voilà.
Alors, ce que l'on sait au moins, c'est qu'il a joué un rôle considérable, Philippe Auguste, pour développer le royaume de France, le royaume capétien, à la fois au nord et au sud. Ça, on le sait.
Absolument.
Et que c'était, et pourtant, il avait fort à faire, parce qu'en face, chez les Anglais, il y a eu Henri II, qui était un roi d'une certaine envergure, et ensuite, il y a eu Richard Cœur de Lion, qui, contrairement au roman historique, n'était pas aussi agréable qu'on a pu le dire, et qui était...
Non, la dynastie capétienne s'est trouvée face à un problème, je généralise un peu, mais vous avez raison de poser la question comme vous le faites. C'est un problème qui est un problème permanent, on peut dire, jusqu'à Louis XIV, qui est un problème permanent, c'est-à-dire faire face à des adversaires extérieurs, notamment le Saint-Empire romain germanique, l'Empire, faire face à un rival qui est présent sur le territoire de ce que nous appelons la France, qui sont les Anglais, et faire face à l'ambition des grands vassaux, des grands féodaux qui n'acceptent pas la centralisation monarchique. Donc il y a trois adversaires. Et au centre, il y a la monarchie, le royaume de France, le domaine royal, avec la volonté, chez les trois d'ailleurs, que ce soit Philippe le Bel, Philippe Auguste, Saint-Louis ou Philippe le Bel, d'augmenter le domaine royal, et qui se heurte parfois à des coalitions, puisqu'on parle de Philippe Auguste, on va pouvoir en parler, à des coalitions entre grand féodal, roi d'Angleterre, Plantagenet, roi d'Angleterre, et empereur germanique. Le moment crucial pour Philippe Auguste, c'est évidemment le dimanche de Bouvines, qui a lieu le 27 juillet 1214, le dimanche de Bouvines, où, et là, c'est intéressant pour des sujets contemporains, c'est-à-dire pour l'identité nationale, puisque, vous savez, le dimanche de Bouvines, c'est un grand livre d'un grand médiéviste, Georges Duby, dans une collection qui s'appelle « Les 30 journées qui ont fait la France ». Et ce dimanche de Bouvines, qui se situe dans le nord de la France, pour simplifier, on voit allier les Anglais, Jean Santerre, l'empereur germanique qui a été excommunié, mais qui est toujours là, Othon, et un grand féodal qui est le comte Ferrand de Flandre. Et ces trois hommes rassemblent une armée impressionnante. En face, il y a l'armée de Philippe Auguste, à laquelle se sont ajoutés des contingents venus des communes. Et donc déjà une sorte de, entre guillemets, de levée en masse au nom du roi de France. Et donc, les historiens, en tout cas, j'appartiens à ce groupe-là, pensent que là, et Duby m'a donné évidemment l'imprimatur avant la lettre, dans la mesure où le roi vraiment incarne la naissance difficile d'une nation. Et on voit bien, par exemple, la bataille de Bouvines a lieu le 27 juillet 1214, c'est un dimanche. En principe, le dimanche, c'est jour de trêve. Jour du Seigneur, il n'y a pas de guerre. Il n'empêche que les adversaires de Philippe Auguste attaquent ce jour-là. Et quand le comte Ferrand sera fait prisonnier, on le met dans une cage en fer, on le transporte jusqu'à Paris. Et tout au long du parcours entre Bouvines et Paris, c'est le délire, l'enthousiasme, vive le roi. On ne crie pas vive la France, mais on crie vive le roi de France. Donc c'est une période très intéressante de surgissement de l'identité nationale, on pourrait intituler ça « Naissance d'une nation ».
Naissance d'une nation, provenant aussi de la démarche d'un roi qui s'est beaucoup appuyé sur la bourgeoisie naissante. Là.
Absolument, absolument.
C'est le début aussi des villes, des libertés des
villes.
C'est
le début des villes, c'est dans la guerre contre les féodaux, ce sera l'appel, et on voit tout cela, vous avez raison, on voit tout cela se renforcer pendant cette période du XIIIe siècle. Vous savez que Philippe le Bel, je saute à Philippe le Bel, mais pour aller dans le sens de votre question, Philippe le Bel fait appel à des légistes, à des gens qui sont, entre guillemets, des roturiers, qui ne sont pas des nobles, et qui vont imposer l'ébauche, il faut toujours parler d'ébauche, hein, qui vont imposer l'ébauche d'un pouvoir central déjà administré. Guillaume de Nogaret, j'ajoute un quatrième adversaire, puisque j'avais parlé des féodaux du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche, j'ajoute un quatrième adversaire, le pape. Car l'Église est évidemment une puissance, mais déjà, Innocent III, face à Philippe Auguste, il n'y a que Saint-Louis qui échappe au conflit avec le pape, et voyez comme c'est étrange, comme les choses se passent, c'est parce que le pape Boniface VIII voulait se réconcilier avec Philippe le Bel qu'il a canonisé Saint-Louis en 1297.
Alors on y reviendra, mais ce que l'on sent dans votre livre, par rapport à l'image qu'on a en général du règne de Saint-Louis, c'est que le début ne se présente pas bien du tout. Il devient roi, il n'a que 12 ans, et l'état du royaume n'est pas, on peut le dire, resplendissant à ce moment-là. Il y a eu Philippe Auguste, il y a eu un vrai trou avec Louis VIII. Et puis, il y a la régence d'une femme qui plus est une étrangère. Donc, toutes les conditions sont presque réunies pour que ça se passe mal. Or, ça va bien se passer. Pourquoi ?
Écoutez, parce que Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui tient la régence, est une femme extraordinaire, une femme qui agit, qui a le pouvoir d'un roi et qui, quand Saint-Louis part en croisade autour des années 1250, la septième croisade, je crois, elle va gérer le royaume pendant plusieurs années. C'est donc vraiment là une femme et une étrangère, et ça aussi c'est intéressant pour notre identité nationale, une femme et une étrangère qui gouvernent le royaume en lieu et place de Saint-Louis.
Mais pourquoi Saint-Louis a-t-il tellement employé son énergie à être à l'extérieur au lieu de rester en France ? Parce que quand même, vous parlez de cette septième croisade, il laisse le royaume pendant plusieurs années, il passera 4 ans
en Syrie.
Et ça commence très mal en plus.
Non, ça commence très mal puisqu'il est fait prisonnier en Égypte et ça finira très mal puisqu'il meurt sous les murs de Tunis en 1270. Je crois que ça, c'est très important ce que vous évoquez, enfin la question que vous posez, parce que nous avons du mal à imaginer la force, et ça aussi, ça renvoie à nos questions d'aujourd'hui sur l'identité nationale, la force, le poids du catholicisme dans les consciences. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur. C'est que réellement, un souverain capétien, mais ce sera vrai de Louis XVI, j'ai écrit il n'y a pas longtemps une histoire de la Révolution française, ce sera vrai de Louis XVI, le sacre qui sacre les rois les transforme totalement en personnages qui sont marqués par leur lien avec Dieu et qui se veulent, même face au pape, les représentants de Dieu pour gouverner leur royaume, avec une mission. Alors chez Saint-Louis, c'est particulier. Saint-Louis, lui, il pense que sa fonction, sa mission, ça n'est pas seulement le royaume de France, il l'agrandira, on fera une croisade en fait dans les pays occitans, dans les pires conditions, avec une grande violence, mais c'est au nom de l'orthodoxie catholique, je dirais. Mais en réalité, il le dit et il l'explique à son partenaire, enfin, quand il est prisonnier des musulmans, il dit, j'ai échoué parce que mon but, c'était de vous convertir. Je ne suis pas là pour conquérir des territoires, je suis là pour conquérir des âmes. Et quand il repart en croisade en 1270, c'est parce qu'il pense, ou en 1268, c'est parce qu'il pense que ceux qui lui rapportent qu'il y a la possibilité à Tunis de convertir les princes musulmans qui sont là, il y croit. Évidemment, c'est une erreur, mais il va mourir. Mais chez lui, la mission de conversion, son rôle de représentant de Dieu est tout à fait extraordinaire. Vous savez que on peut dire que Saint-Louis était un mystique se flagellant, lui portant des cilices, refusant de manger ce qui lui faisait plaisir. Bref, il a fini ses jours presque comme un ascète et comme un saint de ce point de vue-là.
Alors, il y a eu donc cet épisode extraordinaire de la 7e croisade. Lorsqu'il prend vraiment le pouvoir en France, on peut dire que c'est en 1254, donc il a 40 ans. Et contrairement à tout ce qu'on pense, il a été un roi assez autoritaire. C'est un roi qui piquait les colères, semble-t-il, assez terrible et qui n'avait pas de conseiller très direct. Il a vraiment exercé une autorité très forte sur le...
Oui, mais de ce point de vue-là, on pourrait dire la même chose de Philippe Auguste et de Philippe le Bel. Nous avons une vision des réalités du passé qui est déformée. La violence, la cruauté sont des pratiques, on peut dire, quotidiennes. Saint-Louis, par exemple, personne ne peut oublier que Saint-Louis, et quand j'ai commencé à écrire ce livre, des amis proches m'ont dit « Mais comment tu t'intéresses à ce personnage ?» J'ai même reçu une lettre d'un ami très cher qui me reprochait de l'avoir écrit, ce livre, puisqu'il l'avait lu. Car, par exemple, si nous parlons de la cruauté, de la violence et de la dureté, il suffit d'analyser les rapports de Saint-Louis avec le judaïsme. C'est-à-dire la persécution conduite contre les juifs, des autodafés de Talmud, des massacres réels qui ont lieu. Et cela, évidemment, il faut le comprendre, enfin, il ne faut pas l'excuser, mais il ne faut d'abord pas l'excuser, il ne faut pas le taire, il faut savoir que ce personnage qui est un saint pour l'Église et qui a un côté mystique et ascétique et qui veut convertir les musulmans à la foi catholique est en même temps le même qui, organisant des disputations, c'est-à-dire des conflits de paroles entre des chrétiens et des rabbins, considère tout à fait normal qu'à un moment donné, eh bien, on cesse de parler parce qu'on n'arrive pas à convaincre le rabbin, qu'on est battu dans la dialectique verbale et qu'on lui donne un coup de masse sur la tête, on le tue. Et il trouve que c'est la seule solution quand on débat avec quelqu'un qui est de la religion judaïque, qu'on n'est pas capable de convertir et qui, au contraire, vous met en difficulté, on le tue. Donc, il y a là, on saisit bien, dans cette période, ce qu'on peut appeler, non pas l'antisémitisme, mais l'anti-judaïsme. Les Juifs étant responsables de la mort du Christ. Donc, c'est une période extrêmement violente. Et je commence d'ailleurs le livre par le récit d'une épidémie de peste qui a lieu en 1322, c'est-à-dire après la mort de Philippe le Bel, où l'idée, la rumeur se répand qu'il y a un complot pour empoisonner les fontaines à Paris et dans les villes du royaume, et que ce complot, il est à la fois organisé par des émirs musulmans en rapport avec les Juifs. Donc c'est aussi ça, cette époque du XIIIe siècle, celle où l'on construit la Sainte-Chapelle, ses chefs-d'œuvre, c'est aussi cette réalité-là.
Parce que vous racontez des choses extravagantes, enfin je veux dire extravagantes par rapport à notre mémoire. Quand vous racontez par exemple qu'on creuse des fosses immenses, on met du bois dans ces fosses, on met le feu et on précipite les...
Absolument, absolument.
On précipite des juifs là-dedans.
Enfin, et on dit que les femmes avec leurs enfants s'y jettent d'elles-mêmes... pour mourir avec leurs enfants. Donc, je veux dire, c'est horrible. C'est une barbarie réelle qu'il faut dire, parce qu'elle est... Mais si je vous raconte un épisode pour montrer l'état de civilisation qui est caractérisé par une contradiction entre, d'une part, si j'ai visité récemment pour un reportage à propos de mon livre « La Sainte-Chapelle », ça faisait longtemps que je n'y étais plus allé, ce chef-d'œuvre extraordinaire, où d'ailleurs... Rares sont les Parisiens qui le visitent, il n'y a que des étrangers qui visitent. Les bleus des vitraux, la dentelle de pierre.
Oui, c'est la grâce, quoi.
C'est vraiment la grâce. Mais en même temps, vous avez la violence dont nous venons de parler. Et vous avez quand Saint-Louis, j'ai raconté ça en détail, parce que, non pas parce que c'était macabre, mais parce que ça donne le niveau de civilisation, ou en tout cas le comportement. Quand Saint-Louis meurt sous les murs de Tunis, on va plonger son corps dans une grande bassine d'eau bouillante, de manière à pouvoir le désosser, à faire se dissoudre, se consumer les chairs, à garder les ossements qui vont devenir des reliques. Et quand Saint-Louis sera sanctifié, il va y avoir dispute pour savoir qui va conserver les reliques. Donc tout ça nous renvoie à un passé que nous avons du mal à imaginer. Et au début, sous Philippe Auguste, c'est Saint Bernard qui en 1127 va rédiger la charte des Templiers. Nous aurons affaire aux Templiers à la fin de notre période, si j'ose dire, avec Philippe le Bel. Mais c'est lui qui rédige la charte des Templiers. Et quand vous lisez cette charte des Templiers, j'ose le dire, quitte à paraître hérétique ou à être menacé d'excommunication, le texte de Saint Bernard de Clairvaux, j'ai écrit une biographie de Saint Bernard de Clairvaux et je trouve ce personnage tout à fait fascinant et je suis très attiré par lui. Il n'empêche que quand vous lisez sa charte des Templiers, c'est exactement du Ben Laden. C'est-à-dire qu'il dit, vous êtes les chevaliers du Christ, la milice, la nouvelle milice du Christ, vous pouvez tuer un infidèle, vous ne tuez personne. Vous commettez un malicide, c'est-à-dire vous tuez le mal. Et si vous mourrez, vous serez sauvé parce que vous avez tué le mal et que vous êtes mort en tuant le mal. Donc c'est vraiment, nous sommes là dans ce qu'on peut appeler une vision intégriste, fanatique de la foi. Ce qui nous donne à penser qu'il faut beaucoup de temps pour se dégager de ces comportements.
Alors pour terminer, concernant Saint-Louis, sur une image plus calme, il a su quand même, et ça n'était pas facile, faire la paix avec les Anglais, après avoir montré son autorité à leur égard, car c'était militairement, ce n'était pas du tout un quoi.
Non, il a fait la paix avec eux. Oui, il a fait la paix avec eux. Il a en même temps agrandi le domaine royal. Donc, du point de vue de l'espace contrôlé par le roi de France, cette période capétienne, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, est une période de grande réussite, qui sera suivie, mettons en perspective, pour qu'on saisisse les allers et retours de la fortune au sens ancien du mot, de la France. N'oubliez pas qu'en 1420, quelques années plus tard, un siècle plus tard quand même, mais moi, à cette époque-là, on passe facilement sur les années, en 1420, au traité de Troyes, pratiquement, on abandonne Isabeau de Bavière, abandonne aux Anglais le royaume de France. Et puis, quelques années plus tard, ce sera Jeanne d'Arc, brûlée vive, en 1431.
Alors, la troisième grande figure, donc Philippe le Bel, qui règne de 1285 à 1314. Tout à l'heure, donc, vous disiez sur Philippe Auguste, on ne sait pas très bien physiquement à quoi il ressemblait. Et alors, est-ce que Philippe le Bel était aussi bel homme que l'ont dit certains chroniqueurs? On a dit que c'était l'un des plus beaux.
Je ne sais pas. Je crois qu'il faut...
On n'a pas de choses qui l'attestent.
Enfin, on peut relever ce que disent les chroniqueurs, et vous avez raison de citer ce passage, dans lequel, en effet, la stature, la posture, on le voyait, on savait que c'était le roi. Maintenant, la réalité, difficile de le dire. Je ne peux pas vous répondre avec certitude, sinon que j'ai eu du mal, parce que c'est moi qui ai donné les noms à ces rois, je dois dire, ça c'est la liberté du romancier. J'ai appelé Philippe Auguste, qui par lui-même déjà avait une appellation, Auguste. Moi j'ai appelé Philippe Auguste le Conquérant, Saint-Louis le Croisé, et j'ai eu du mal avec Philippe le Bel, et je l'ai appelé, finalement j'étais très content de trouver ce nom.
Oui, pourquoi l'énigmatique?
L'énigmatique parce que il reste quand même un personnage très mystérieux. On ne sait pas exactement ce qu'il était, pourquoi il s'est comporté de cette manière avec cette épouse venue des pays du Nord. Ça reste un grand mystère, puisque après, elle était, paraît-il, très belle, enfin là encore, avec hypothèse, et il a passé la première nuit avec elle, et il est sorti de là en disant « Je la répudie, je ne veux plus du tout la voir. » Et malgré tous les efforts du pape, devant lesquels il a, comme il craignait l'excommunication, il a reculé, il a réadmise dans son entourage. Mais il y a un mystère. Pourquoi, quelle caractéristique ou psychologique ou physique avait cette femme pour qu'elle soit répudiée de cette façon? Et puis il y a un épisode qui est encore plus terrible, qui montre la violence de Philippe le Bel, un épisode dont le détail maintenant m'échappe et qu'il serait trop long à raconter, mais dans lequel il apprend que ses filles, ses brues...
Les femmes de ses trois fils.
Les femmes de ses trois fils.
Les trompent. Et c'est sa fille qui le lui apprend.
Et c'est sa fille qui lui apprend. Et les malheureux amants de ses filles sont traités, sont torturés, émasculés, dépecés, et les filles sont vouées à un sort pas plus recommandable.
C'était l'année de sa mort.
C'est dire la violence de cette époque. Et c'est pourquoi je crois que nous devons penser que nous vivons dans des sociétés fragiles où la violence est toujours présente et nous féliciter d'en être au degré auquel nous sommes.
C'est un roi qui, à la différence de Saint-Louis, a repris la bagarre à l'échelle internationale, d'abord donc contre les Anglais et ensuite contre la Flandre, mais avec réussite.
Avec réussite, oui. Avec réussite, et surtout, sa grande réussite, ça a été contre le pape, avec tous les rapports, avec les gistes, la violence contre le pape. C'était un politique, énigmatique, mais un politique.
Donc le pape, c'était Boniface VIII. Il a même réussi à le faire emprisonner. C'est quand même une chose effarante de penser qu'un roi de France a pu mettre la main sur le pape.
Mais parce que le pape, après tout, n'est du point de vue de ses souverains qui ont été sacrés qu'un parmi les personnages qui sont en rapport avec Dieu, et eux, rois de France, sacrés, le sont aussi. Oui.
Et il va gagner, finalement.
Il va gagner, il va gagner absolument.
Oui. Alors, ce qu'il y a de peut-être de plus important pour le destin de la France, chez Philippe le Bel, c'est la manière dont il a su renforcer l'État. C'est quand même une grande époque, Philippe le Bel. C'est le Parlement, la Chambre des comptes. Et
en 1302, ouais, la première réunion des États généraux. Ce qui montre bien, si vous voulez, qu'au cours de ces années, de Philippe Auguste à Philippe le Bel, il y a vraiment le début de constitution, l'esquisse de constitution d'un royaume qui va coïncider avec une nation. Qui va faire naître une nation, c'est la principale caractéristique de cette époque.
Mais là, c'est quand même un accouchement difficile, parce que la fin du XIIIe siècle, c'est aussi la crise économique européenne. Et Philippe le Bel n'hésite pas sur les méthodes. Hein. Il va jouer avec la monnaie d'une façon étonnante. Il va, ce qu'on dirait aujourd'hui, dévaluer, et même changer le poids de l'or dans les monnaies. Enfin,
le grand remuement des monnaies, en
oui,
tout
c'est
cas.
Ça, ce qu'on appelait... Et c'est très mal passé. En fait, il y a quand même eu des soulèvements ici et là. À Paris, en 1295, il y a eu une insurrection. C'est un homme, ça a été un grand roi, mais ça n'a pas été un roi populaire.
Pas été un roi populaire. La fin est... Et d'ailleurs, j'ai relevé, là, j'ai gardé la manière dont on accompagne Philippe le Bel. Ainsi lui fut dit pleinement qu'il allait contre le serment qu'il avait à Reims donné quand tu étais roi couronné. Roi encore as-tu eu au moins... l'ont tes gens reçu des Templiers et l'argent et l'or qui doit être en ton trésor. C'est-à-dire que la guerre qu'il a conduite contre les banquiers de cette époque, pour simplifier, parce que ce serait, évidemment, il faudrait entrer dans le détail, mais contre les Templiers, pour s'emparer à la fois de leur trésor et en même temps de leur créance. C'est-à-dire qu'on s'attaquait vraiment à une banque, on la dépossédait et on transférait ses biens au pouvoir royal, a laissé beaucoup d'interrogations dans la population, beaucoup d'inquiétudes même, puisque, vous le savez, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, aurait maudit sur son bûcher devant Notre-Dame la dynastie à venir.
Oui, et alors là, coïncidence ou non, mais les malédictions de Jacques de Molay, il se trouve que dans les mois qui ont suivi, Guillaume de Nogaret, grand conseiller du roi, le pape Clément V, l'autre conseiller Enguerrand de Marigny, sont morts, et que les trois fils donc de Philippe le Bel n'ont pas eu de destinée mâle. Max Gallo, là je ne m'adresse pas à l'historien, je m'adresse à l'homme, en pensant d'ailleurs un peu à ce pouvait être la réaction des Français de cette époque-là. Vous-même, une malédiction comme ça, ça vous paraît, enfin, le fait qu'elle est, c'est que l'histoire ait donné des événements comme cela par la suite, ça vous paraît risible de croire à une malédiction de ce type, ou est-ce qu'au contraire vous dites après tout, on sait jamais
Non, de croire à l'efficacité de cette malédiction, du propos tenu par un homme qui va mourir, qui a été torturé, qui va être brûlé vif lui aussi, et qui maudit ceux qu'il estime être responsables de sa perte, qui l'ont trahi, c'est-à-dire le souverain et sa famille et les légistes dont vous avez cité les noms, ça ne me paraît pas impossible, car nous sommes dans une période où la rumeur, la malédiction, la légende font partie de la manière dont on appréhende la réalité. C'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre que cette malédiction correspondait à quelque chose de réel, mais ma rationalité me conduirait à penser que non. Mais de l'autre côté, le mystère, on peut toujours mettre un point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type de propos, comme les autres à propos de Saint-Louis, c'est-à-dire de son attitude à l'égard des Juifs, ce type de propos, il est reçu comme tout à fait crédible. Et il met les foules en mouvement.
Il faut dire que le roi n'y était pas allé de main morte, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque le 13 octobre 1307, tous les Templiers avaient été arrêtés, interrogés, un certain nombre d'entre eux transmis à l'Inquisition, ce qui voulait dire à la torture. Et 52 Templiers ont été brûlés vifs, là, dès 1307, et le grand maître, donc Jacques de Molay, en 1314. Donc, on voit bien ce que vous disiez tout à l'heure, la violence au cœur de cette histoire, même si on a affaire à des grands rois sur d'autres, dans d'autres domaines. Quoi.
La violence.
Il
violence.
Faut accepter cette idée.
Ah, il faut... Non, c'est la réalité.
Donc, si l'on veut faire un bilan de cette période, vous dites il y a tout ça. Vous avez évoqué tout à l'heure là, ce que raconte votre héros, ce qui s'est passé de façon terrible en 1321, 1322, les Juifs et les lépreux. Mais il y a la constitution du sentiment national. C'est vraiment là que naît le
Écoutez,
sentiment
je crois
national de la
les
France.
Historiens médiévistes, je pense à Georges Duby notamment, mais aussi à Marc Bloch, mais à Georges Duby surtout, dans son Dimanche de Bouvines, je crois qu'ils ont raison de voir se constituer, dans cette période du XIIIe siècle, une ébauche de nation. C'est-à-dire le moment où le roi de France, qui est le principal suzerain par la puissance, par l'importance de son domaine royal, où le roi de France réussit à s'imposer aux grands féodaux, où il réussit à contenir, à battre les Anglais, où il fait face et montre son autorité à l'égard de l'Église, et où il se donne, et ça c'est très important, une administration, une ébauche d'administration avec les légistes, avec ces légistes qui bâtissent tout un argumentaire pour justifier les attitudes politiques du roi. Et tout cela, et même la volonté de détruire les Templiers, c'est-à-dire non seulement de s'emparer de leurs biens, mais de briser une force qui était devenue une force autonome, tout cela montre bien que nous marchons vers un État centralisé, c'est-à-dire ce qui sera le dessein des souverains jusqu'à Louis XIV.
Et alors, vous évoquez l'autre signe de la grandeur de ces rois, donc c'est toute cette édification d'une architecture religieuse sublime qui est là au cœur de nos vies. Mais vous dites quelque part, nous sommes les enfants de ces pierres et nous devons donc connaître ce qu'il y a derrière, connaître cette histoire pour notre identité nationale. Et finalement, ce livre devient d'une très grande actualité puisque vous nous demandez finalement de partir à la recherche de cette histoire-là pour nous connaître nous-mêmes.
Écoutez, je crois que cette histoire-là, comme vous dites, est très importante parce qu'elle nous montre à quel point, aux origines de la France, de la nation France, il y a ce rapport quotidien avec le catholicisme. Ça peut être un rapport conflictuel. Nous voyons le rapport entre les rois et les souverains pontifes. Mais en même temps, tout l'espace urbain, mais pas seulement l'espace urbain, l'espace villageois, est structuré, et bien entendu les pensées, bien entendu les universités, tout cela est structuré par le catholicisme et par l'Église. Et ça montre, si vous voulez, que cette imprégnation, même si aujourd'hui le nombre de pratiquants en France diminue, même si la présence de l'Église a été, depuis la séparation de l'Église et de l'État, parfaitement canalisée, contrôlée, séparée de l'État, ça montre que notre univers mémoriel est marqué par cette présence spatiale. Ça n'est pas indifférent pour un citoyen d'aujourd'hui de passer devant la Sainte-Chapelle construite par Saint-Louis. Même s'il n'y entre pas, elle est là, elle est présente, c'est un môle dans notre mémoire. Ne pas tenir compte de cette réalité, c'est ne pas comprendre la force de ce passé dans notre présent.
D'autant que certains nous le rappellent parfois, par exemple Benoît XVI et le couvent des Bernardins. Par exemple, le couvent des Bernardins, pour vous, ça évoque quoi ?
Le couvent des Bernardins, c'est le lieu où on a déposé, si mes souvenirs sont exacts, la dépouille mortelle de Philippe le Bel. C'est-à-dire, je crois qu'il a été construit en 1245 et qu'il soit encore aujourd'hui présent à l'activité, si j'ose dire, avec la visite d'un pape, montre que finalement le temps écoulé nous paraît long, mais en réalité il y a des superpositions intéressantes qui se font comme un court-circuit entre le passé et le pape dans le couvent des Bernardins, là où Philippe le Bel, avant d'être transporté à Saint-Denis, à l'abbaye de Saint-Denis, repose une fois mort. Tout cela montre bien qu'il y a un court-circuit entre le présent et le passé. Alors, il ne faut pas être prisonnier du passé, il faut simplement mesurer ce qu'il signifie pour notre présent.
Mais, pardonnez-moi cette question très directe, en quoi ça peut intéresser un jeune beurre du 9-4, comme on dit aujourd'hui ?
Écoutez, ça, je reconnais que ce serait tout aussi indifférent pour nous si nous étions, si par un effet des surprises historiques, nous trouvions confrontés à un pays dans lequel la religion musulmane aurait la même importance qu'a eu la religion catholique au XIIIe siècle. Il y a de l'indifférence, mais en même temps, on peut demander à ce jeune homme de connaître cette histoire, non pas pour y adhérer, mais simplement pour savoir que l'histoire de la France ne commence pas avec son arrivée sur le sol national d'aujourd'hui. C'est ça la grande différence entre les immigrations, d'ailleurs. On peut dire qu'au 10 jusqu'aux années 20, 25, 30 du XXe siècle, celui qui arrivait en France, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle en gros, celui qui arrivait en France avait le sentiment qu'il entrait dans un pays qui avait une longue histoire, que cette histoire, il devait s'insérer dans cette histoire, prendre conscience qu'elle existait, qu'elle pesait, qu'elle était lourde. Et aujourd'hui, où celui qui arrive a le sentiment souvent d'arriver dans un territoire. Notez bien l'importance de ce mot, que ce mot a pris dans le langage politique d'aujourd'hui. Au lieu de parler de province, on parle de territoire. Les territoires, les hommes politiques parlent de territoire, mais ça signifie qu'un territoire, c'est un espace géographique. Ça n'est pas quelque chose qui a été façonné, modelé par les hommes, par le travail historique.
Alors, ce roman donc, est à l'honneur d'une famille, on peut le dire, hein, les Villeneuve de Thorenc. Et à ce point d'ailleurs que celui auquel vous servez de porte-plume, Luc de Thorenc, refuse de s'associer à la chasse aux lépreux et aux juifs dans les années 1321-1322, et il préfère se retirer sur ses terres. On se dit que pour certains, à vous lire, hein, et à partager l'histoire de cette famille, on se dit que pour certains, être noble, ce fut vraiment un état aristocratique au sens grec du terme, Aristos les meilleurs.
Écoutez, en tout cas, j'ai fait l'hypothèse que l'un de mes héros, il m'était difficile d'assumer cette période, ces événements, que l'hypothèse que l'un de mes héros, et il y en a eu, se trouve comme cela, mis en contradiction avec sa propre foi chrétienne telle qu'il la vit, et puis ce qu'on commet en son nom. Mais cette hypothèse, en effet, elle est tout à fait réaliste. Il y a des individus qui se sont comportés ainsi, même dans les périodes les plus cruelles. Donc, mon personnage me paraît tout à fait historiquement crédible.
Donc, cette vision très belle de l'aristocratie, est-ce qu'elle correspond à ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en la domestiquant, hein, entre guillemets, à Versailles, Louis XIV a enlevé à la noblesse une partie de sa dignité et une partie de sa mission historique ?
Ouais, c'est une question pertinente. Et je crois que la réponse est oui. Je crois qu'à un moment donné, en devenant... Je vais employer un mot fort, en devenant les rentiers du roi, c'est-à-dire des gens qui sont tenus à bout de bras par les subsides qu'on leur verse et dépossédés de véritables pouvoirs. Ils ont un pouvoir foncier, mais dépossédés de tout pouvoir. Je crois en effet qu'il y a eu là une perte d'autorité morale. Mais en même temps, la noblesse, l'aristocratie s'est battue longuement toute l'histoire des frondes, des résistances à Richelieu, à Louis XIII, à Louis XIV bien sûr aussi. Tout cela montre bien qu'il y a eu un travail de résistance de la part de cette aristocratie qui sentait bien qu'elle allait être domestiquée et qu'en même temps c'était la seule façon pour elle de continuer à exister.
Et ce qu'on peut dire à vous entendre, on retrouve un thème d'un autre grand historien, qu'au fond, il y a peut-être eu sous-jacent une alliance entre, au nom de la nation, une alliance entre la bourgeoisie et le roi, et face au...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roi, le souverain, c'est vrai de Louis XV, ce sera vrai de Louis XVI à ses débuts, a essayé, mais c'était déjà vrai de Philippe le Bel, je veux dire, c'est-à-dire que pour tourner les féodaux, que ce soit ou les parlementaires, mais titulaires de leur charge, là je passe à Louis XVI, pour tourner les féodaux, on s'appuie sur le tiers-État. C'est pour ça qu'on réunit les États généraux en 1302. C'est pour ça qu'on les réunit en 1614. C'est pour ça qu'on les réunit en 1789, de manière à avoir un contrepoids aux ordres privilégiés. Mais contradiction qui n'apparaît pas encore dans la période que nous évoquons là, où les choses ne sont pas encore arrivées, je dirais, à maturité, contradiction pathétique du souverain, car combattre les ordres privilégiés, c'est se combattre lui-même. Car toute la structure de la société, elle est fondée sur précisément la division en ordre. Et le souverain, en même temps qu'il est relié au divin, en même temps, il est celui qui incarne réellement l'aristocratie. Et c'est dans ses lois fondamentales du royaume qu'il trouve l'idée qu'il doit protéger cet ordre. Donc il a besoin des autres, du tiers-état, pour s'opposer, imposer par exemple une réforme fiscale à l'aristocratie ou au clergé, à la noblesse et au clergé, mais en même temps il ne peut pas aller jusqu'au bout, parce que aller jusqu'au bout, c'est se remettre lui-même en cause. Et il y a là une contradiction qui est d'autant plus forte que le sacre a fait de lui un personnage qui est lié précisément à cette structure de la société, qui est liée intimement, profondément. Et c'est le drame de certains souverains, je pense notamment à Louis XVI, pathétique de ce point de vue-là, qui est à la fois conscient de la nécessité des réformes, mais qui ne pourra jamais accepter d'être seulement le roi des Français, c'est-à-dire un souverain constitutionnel, c'est-à-dire finalement un homme comme un autre. Et ça, il ne le peut pas. Il ne le peut pas, non pas pour des raisons sordides ou de petites raisons d'ambition ou de statut, il ne le peut pas parce que, ontologiquement, théologiquement, il se sent autre.
Et vous faites dire à Hugues de Thorenc, donc votre héros, face aux persécutions de 1321-1326 à l'encontre des Juifs et des lépreux, vous lui faites dire « Dieu n'a pas voulu cela, je le sais, mais si Dieu n'a pas voulu cela, il a laissé les hommes devenir les vassaux de Satan. » Ceci correspond à votre propre sentiment d'un jeu entre le bien et le mal dans l'histoire et Dieu au milieu de tout ça?
Vous mettez le doigt sur un point central, en effet. Je pense, si vous voulez, que l'humanité, je vais employer un gros mot, un grand mot en tout cas, l'humanité est tendanciellement ou instinctivement anthropophage. C'est-à-dire que les hommes se dévorent entre eux. Vous savez qu'il y a une divinité qui s'appelle Moloch, dans la Grèce ancienne, qui est nourrie avec des jeunes enfants. Je crois que l'humanité est anthropophage et que cette tendance, cette présence de Thanatos, c'est-à-dire de l'instinct de mort, de l'instinct de destruction, cette tendance à l'anthropophagie, c'est-à-dire à la destruction de l'autre, elle est une des lignées de l'histoire humaine. Et quand on ne la regarde pas en face, ben on se prive de la compréhension du réel. On ne comprend pas qu'en Europe, on ait pratiqué au XXe siècle ce qu'on a pratiqué, c'est-à-dire la destruction par millions de personnes simplement parce qu'elles étaient juives. Et en même temps, face à cela, je continue à croire qu'il y a une liberté humaine qui est précisément de s'opposer à cela. Et dans mes livres, c'est vrai que, peut-être forçant un peu le trait, je place des personnages qui incarnent, comme Hugues de Thorenc par la phrase que vous avez citée, qui incarnent cette résistance à notre tendance à l'anthropophagie.
Mais à vous entendre, on a l'impression que l'historien a vraiment une mission fondamentale. Là.
Écoutez, oui, parce que je crois une mission, en tout cas c'est celle que moi je me suis donnée, ou en tout cas que tendanciellement je me donne, qui est, si vous voulez, de dire les choses dans leur totalité.
Leur complexité.
Dans leur complexité. À un moment donné, je pensais que l'historien ou le romancier tel que je le conçois avait une mission qui était de dire au lecteur, faire comprendre au lecteur ce que le lecteur croit opaque est en réalité plus transparent qu'il n'imagine, et que ce qu'il croit transparent est en réalité plus opaque qu'il n'imagine. C'est-à-dire faire comprendre, vous l'avez dit, la complexité. Et la mission de l'historien, c'est d'alerter en montrant. Parce que l'histoire, c'est un de mes thèmes favoris, est le seul laboratoire dont disposent les hommes pour, non pas expérimenter, mais voir ce que donne tel ou tel comportement humain. Si vous ignorez comment se sont passées les choses, qu'il y a eu la Saint-Barthélemy pour s'en tenir à cela, ou bien ces massacres de Juifs en 1321-1322, vous ne comprenez pas ce qu'est l'histoire humaine. Et pourtant, nous avons ce laboratoire qui existe, où in vivo, il y a des choses qui se sont passées que nous devons essayer de raconter et de comprendre.
Mais entre ces massacres de 1321-1322, donc contre les Juifs, massacres horribles, comme le procès des Templiers, procès horrible, et les massacres des autres inquisitions du XXe siècle, vous pensez qu'il y a une différence de degré ou une différence de nature ?
Je ne sais pas s'il y a une différence de nature. De degré sûrement, mais...
Parce que c'est terrible. S'il n'y a pas une différence de nature, vous nous plongez au cœur d'une
non, la
une vision de l'homme.
La différence de nature, mais elle est sombre. Mais la différence de nature vient de ce que, et on le voit bien, puisque j'ai écrit sur les Romains aussi, alors là, c'est le croyant qui vous parle. Songez que... J'ai écrit un livre sur Spartacus, et nous sommes dans le sujet. Songez qu'entre la ville de Capoue et Rome, on a dressé 6000 croix d'esclaves qu'on a crucifiés pour les punir de d'avoir suivi Spartacus et d'avoir à un moment donné inquiété, peut-être même ébranlé Rome. Et imaginez ce que représente le choix du Christ, enfin le choix du Christ en tout cas, imaginez ce que représente une religion qui choisit comme Dieu et fils de Dieu, un crucifié, c'est-à-dire un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois le Dieu, mais non pas le Dieu de la puissance menaçante, mais le Dieu qui exprime la souffrance et qui nous rappelle constamment ce à quoi nous sommes tentés de procéder, ce que nous risquons, c'est-à-dire nous sommes tentés de crucifier et nous risquons de mourir crucifiés. C'est-à-dire que là, il y a une véritable révolution de point de vue qui est mon Dieu est un Dieu de puissance, mais c'est un Dieu qui montre la souffrance et la faiblesse. Et ce qui a changé dans la nature des choses, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, ce qu'on pourrait appeler la fraternité ou précisément l'exemple christique. Ce qui a changé, c'est que la protestation est plus forte. La protestation est plus forte que des gens essaient de mettre en œuvre des politiques conformes aux droits humains. Elles me laissent souvent sceptique. Mais en tout cas, il est bon qu'elles existent.
Mais pour vous, les droits de l'homme descendent directement de la croix du Christ ?
En tout cas, la révolution qui s'est produite, c'est bien celle de la croix. La révolution qui s'est produite, c'est celle-là. À un moment donné, des hommes croient en quelqu'un qui est martyrisé, qui subit le sort d'un voleur, ou le sort d'un esclave.
Max Gallo, merci. Je rappelle donc que vous venez de publier chez Fayard un livre intitulé « Le roman des rois » qui, à travers l'histoire des Villeneuve de Thorinck, donc, nous raconte ce que fut le destin des trois grands rois capétiens qui ont marqué notre histoire de leur empreinte. Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, un livre particulièrement passionnant à lire en cette fin d'année 2009 où est engagé un grand débat donc, sur notre identité nationale. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.